Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du dimanche au lundi 22 janvier 2024 les résultats provisoires des législatives provinciales du 20 décembre 2023. Au total, 688 députés provinciaux ont été proclamés sur 780 attendus. C'est sur près de 40 000 candidats à travers les pays. Comme aux législatives nationales, l'Union sacrée qui regroupe les forces politiques soutenant le président Félix Tshisekedi a obtenu la majorité des sièges, soit plus de 640. Le parti présidentiel IDPS de Tshisekedi a rappelé plus ou moins 100 sièges dans 25 provinces de la République, sauf dans la province du Kwilu où le parti n'a pas obtenu des sièges aux législatives provinciales. Après les partis présidentiels, vient les groupements politiques AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo avec 74 sièges. À la troisième position viennent les formations politiques AAUNC, proches de Vital Kamerhe, avec plus ou moins 50 sièges. Quelle lecture faire des résultats issus des élections provinciales? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Moïla Tshiembe, il est professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Et bonsoir, professeur Moïla Tshiembe.
Bonsoir, Dimitri.
Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir, monsieur Guy Maté, et bonsoir aussi au très estimé professeur Moïla Tshiembe.
Et Augustin Mouessi, il est professeur des sciences politiques à l'université de Goma, Inigoma, Sigle, et chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. On me dit qu'il n'est pas encore là. Il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du dimanche au lundi 22 janvier 2024 les résultats provisoires des législatives provinciales du 20 décembre 2023. Au total, 688 députés provinciaux ont été proclamés sur 780 attendus. C'est sur près de 40 000 candidats à travers le pays. Comme législative nationale, l'Union sacrée qui regroupe les forces politiques soutenant le président Félix Tshisekedi a obtenu la majorité des sièges, soit plus de 640. Grâce à Mouzati pour les détails.
Jusque-là, les résultats provisoires des législatives provinciales ne concernent pas certaines circonscriptions à problème, notamment Boudjala dans le sud du Bangui, Bomongo et Makanza dans l'Équateur, pour raison d'enquête sur la perturbation du déroulement des scrutins, affirme la centrale électorale. À cela s'ajoutent les circonscriptions de Massimanimba au Kwilu et Yakoma au nord du Bangui, où les scrutins ont été annulés par la CENI pour fraude, mais aussi le territoire de Kwamout dans les Maïndombé ainsi que les territoires de Massissi et Rutshuru au nord Kivu, où les élections n'ont pas été organisées à cause de l'insécurité. Comme à la députation nationale, le parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS obtient au moins 100 sièges aux législatives provinciales dans l'ensemble du pays, sauf dans la province du Kwilu. En deuxième position, ce sont les forces politiques de Modeste Bahati Lukwebo, avec 74 députés. Ensuite, viennent les formations politiques de Vital Kamerhe avec plus ou moins 50 sièges. D'autres structures de l'Union sacrée complètent la liste de ses élus provinciaux pour constituer la majorité au pouvoir. L'opposition, quant à elle, a moins de 40 députés provinciaux dans l'ensemble du pays.
Merci à vous, Gas Amzati. Professeur Moïla Tshiembe, vous êtes professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Comment vous analysez les résultats des élections provinciales telles que publiées par la CENI?
On peut les voir, le sentiment que nous avons est que ces élections législatives ressemblent à n'en point douter aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle. Les populations qui se sont mobilisées pour donner au président de la République plus de 73% et quelques poussières ont suivi probablement la même volonté de lui donner encore au niveau de gouvernement de province, encore une majorité, si on prend l'UDPS avec l'ensemble de l'Union sacrée. Et c'est peut-être une volonté de revanche pour dire, il y a eu le premier mandat dont deux ou trois ans plus ou moins ont été perdus dans les maïmaïs avec ses alliés d'FCC. Peut-être que les gens sont déterminés, ont été déterminés à travers ces élections à donner au président de la République, au-delà de sa propre élection, une majorité dans les provinces et probablement demain lorsque la confirmation générale interviendra pour les élections législatives, où il y a déjà une majorité significative pour l'Union sacrée, et y compris l'UDPS, les moyens réels de gouverner le pays.
Et donc, alors, pour vous, ce n'est pas une surprise, c'était plutôt prévisible.
Ben, c'est pas une surprise si on tient compte des élections, enfin, de l'élection présidentielle, hein, dont les résultats ont été déjà proclamés et confirmés par l'institution qui est habilitée à confirmer l'élection du président de la République. Alors, cette confirmation ayant eu lieu, tout le monde attendait avec un peu de perplexité pour savoir qu'est-ce qui se passera-t-il demain lorsqu'on aura les élections, enfin les résultats des élections législatives hier ou avant-hier et les élections provinciales dont nous parlons aujourd'hui. Donc, ça confirme la tendance des élections présidentielles. Il y a eu une volonté manifeste, à mon avis, des électeurs de donner au chef de l'État les moyens de gouverner réellement afin d'éviter les querelles qu'on a connues dans l'alliance FCC-CACH, dont on sait que les résultats n'ont pas été fameux en matière de gouvernance.
Oui, les enjeux par rapport à ces élections, c'est le contrôle de toutes les provinces ainsi que le contrôle du Sénat. Et avec ces résultats, professeur, on peut déjà dire que l'Union sacrée aura à elle seule, n'est-ce pas, le contrôle de toutes les institutions politiques nationales et provinciales?
Bon, mathématiquement, c'est possible. Mais tout ce que l'on peut souhaiter est que, au-delà de l'arithmétique, il ne faudrait pas qu'on assiste demain à des bisbilles à l'intérieur de l'Union sacrée qui pourraient, le cas échéant, dégénérer. C'est-à-dire, on a une majorité, en réalité, arithmétiquement, mais on n'arrive pas à se donner les capacités de gouvernement. Donc, les provinces jouent un rôle déterminant, si on regarde la Constitution. Les provinces sont le porte-étendard de ce développement local qui est prévu par la Constitution, si on peut lire le préambule. Et au-delà de cette assise, les provinces jouent aussi le rôle de renfermissement de l'unité nationale. C'est déjà beaucoup. Alors, quand on sait que l'expérience qui a été tentée depuis les élections passées, les provinces n'ont jamais été gouvernées en réalité. Pourquoi? On a assisté d'abord par ce mode électoral tout à fait dingue. Le gouverneur est élu par quelques députés provinciaux et la plupart du temps, sans se cacher derrière son doigt, généralement, ces députés, ou en majorité, même si tous n'ont pas été achetés, mais il est admis aujourd'hui que la plupart de ces députés provinciaux sont achetés par les candidats gouverneurs moyennant l'argent ou d'autres avantages. Alors, résultat, lorsque le gouverneur est installé, on lui demande de l'ascenseur, de retourner l'ascenseur. S'il ne donne pas ce qu'on attend de lui, on assiste à la cascade de motions, de censure ou de confiance, de défiance. Ce qui fait que, quasiment, à quelques exceptions près, les provinces n'ont jamais été gouvernées. Est-ce que c'est l'occasion de le faire? Probablement, avec la majorité qui se dégage, le président de la République peut avoir les goudets franches, mais encore faut-il faire le choix des hommes capables, par leur capacité intellectuelle, par leur moralité publique, par leur amour du pays, donc à commencer par l'amour de leur propre province, les lieux où ils vivent au quotidien. Alors si vraiment il y a de l'intelligence pour changer la donne, on n'aura pas seulement la majorité arithmétique, mais on aura des hommes et des femmes capables de gouverner les provinces. Or, ça, on n'en est pas sûr, parce que dans la mesure où les alliés vont désigner, bon, qui viennent de l'UDPS, qui viennent de telle autre formation, que ce soit chez M. Caméré ou chez M. Bahati, des hommes d'État tout à fait respectables. Mais si on ne désigne pas dans le gouvernement des provinces les hommes et les femmes capables de gouverner, bah, on risque effectivement d'assister à une sorte de bouillabaisse généralisée et les gens vont regretter leur élection. Mais on touche du bois que ce qui se fait là ne soit pas une fée de manche, que c'est une volonté réelle de donner au président de la République la majorité pour gouverner et les provinces et le Parlement et l'État et pour appliquer effectivement ce qu'il n'a pas pu faire pendant le mandat passé.
Oui, et professeur, comment les choses pourraient changer quand on sait que la classe politique congolaise est la même, hein, elle n'a pas changé avec les mêmes méthodes, avec les mêmes modes, n'est-ce pas, des désignations, des acteurs qui doivent représenter les partis politiques au sein des différentes institutions. Et on sait qu'au finish, on ne tient pas compte, n'est-ce pas, de la qualité du personnel politique, mais on tient plutôt compte de la volonté des différentes autorités morales.
Justement, c'est de ça dont il est question ici. Le président de la République est quasiment plébiscité, quelles que soient les réserves des uns et des autres. Oui, il y a eu des couacs ici, les machines ne sont pas arrivées là-bas. Toutes choses, par ailleurs, compréhensibles. Mais lorsque, indépendamment de ses griefs légitimes, lorsqu'on voit le score du président de la République dans toutes les provinces, excepté l'ancienne province du Katanga, et lorsqu'on voit la majorité au Parlement, lorsqu'on voit la majorité dans les provinces en attendant la confirmation des résultats, on peut penser qu'il y a eu une volonté réelle. Alors le président a une responsabilité qu'il n'avait pas au moment où il a été élu, voici déjà 5 ans. Pourquoi ? Parce que dans des alliances, les discussions, les compromis, voire les compromissions, ont fait que ce mandat-là, comme il vient de finir, avant que le président ne renverse la table en créant l'Union sacrée de la nation, pour récupérer un peu quelque chose, mais le temps était déjà perdu, voilà, il a pu faire ce qu'il a pu, mais en réalité, pas grand-chose, pour la simple raison que lorsqu'on engage la réforme, on a besoin de la durée. Au lieu d'avoir 5 ans, si vous avez un gouvernement qui a un programme, vous travaillez pendant 2 ans, il vous reste encore 3 ans. Et si vous engagez la 3e année pour les élections, il n'y a pas grand-chose. Alors maintenant, devant ce mandat de 5 ans, et devant les engagements que le président lui-même avait pris, notamment la priorité à l'Est pour en finir avec la guerre, et quelque chose qui ne peut pas traîner, et on peut penser avec l'arrivée de la SADC, les troupes de SADC et les FARDC, qu'on peut aller dans la même direction, peut-être avec beaucoup plus de détermination. Alors, le peuple d'abord, c'est pas seulement un slogan, mais c'est l'idée que le vrai pouvoir d'État, c'est celui qui sert le peuple. Il ne sert à rien de voir des gens qui ont les poches pleines, les autres qui dorment à la belle étoile ou qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, même ceux qui travaillent, ils ne peuvent pas nouer les 2 bouts du mois, ce n'est pas sérieux et ce n'est pas normal. Évidemment, partant de cette demande sociale que le président lui-même avait identifiée, le projet de province, enfin pardon, de territoire, et si on y ajoute la gratuité de l'enseignement qui a déjà commencé et qui mérite encore d'être amélioré, ces choses-là exige véritablement que le président de la République ne vienne pas demain expliquer, s'excuser, même si gouverner c'est une preuve difficile, j'en conviens, mais au moins il est, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Merci. Maintenant qu'il a la majorité, il ne peut pas se dérober, on attend véritablement que les provinces soient en marche, que le Parlement soit en marche, que le gouvernement central soit en marche. Merci. Pour l'intérêt supérieur de la nation, notamment.
Merci, professeur Moya Tiembe. Professeur Geoff Moudimbi, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences et politiques administratives de l'université de Lubumbashi. Comment vous comprenez ces résultats issus des provinciales de décembre dernier?
Bien, merci beaucoup, monsieur Guy Maté, pour la question posée. Moi, je voudrais tout simplement ici abordé presque dans le même sens, mais cette fois-ci je me place au niveau des assemblées. Il ressort que la publication des résultats des élections provinciales, législatives provinciales bien entendu, me semble être le reflet de ce qui a été observé au niveau de l'élection législative nationale. En considérant le système des partis politiques en RDC, il s'observe que nous sommes dans le système multipartiste à parti dominant. Donc, il existe plusieurs partis politiques. Et parmi ces partis politiques multiples, un parti a réussi à lui seul à réaliser la majorité des voix ou des sièges, mais sans atteindre la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des sièges plus au moins un siège. Alors, mais il s'observe qu'il y a un regroupement qui dégage la majorité, à savoir l'Union sacrée. Alors, je pense que avec une telle configuration, les différents gouverneurs ne pourront sortir que de cette union sacrée-là. Est-ce que cette situation à laquelle nous assistons, elle est nouvelle? Moi, je dis non, elle n'est pas nouvelle à certains égards. Parce que au mandat du président Kabila de 2011 à 2018, on a aussi assisté à la même configuration où on avait un président de la République qui avait la majorité presque dans toutes les provinces, dans toutes les assemblées provinciales, et aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ici, il se dégage au moins une rupture entre la configuration de 2024 à 2028 et celle de 2018 à 2023, où pendant quelques premières années, nous avons assisté à un président de la République qui n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, cette situation, est-ce qu'elle pourra réellement nous conduire à une efficacité de l'action parlementaire ou des assemblées provinciales sur la gestion au quotidien des provinces par le gouvernement provincial? Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est là que je pourrais rejoindre le professeur Moïla Tshiyembe, mais moi je me situe au niveau de du leadership. Donc il faudrait vraiment que nous puissions avoir un leadership agissant, impulsif, donc qui doit propulser les actions de manière à ce que même les gouvernements provinciaux arrivent à travailler dans le sens de la satisfaction des besoins du peuple et de la résolution des problèmes auxquels ce peuple est confronté. Mais sinon, nous risquons encore de nous retrouver, l'histoire, on dira que l'histoire se répète, de nous retrouver dans une situation telle que les gens n'agissent que en fonction du mot d'ordre de leur composante ou de leur parti politique. Et à ce moment-là, la population aura compris tout simplement qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mais nous pensons que, avec le discours tenu par le président de la République, bon, j'estime réellement que le président de la République a tenu beaucoup de beaux discours, avec des grandes promesses. Et même dans le discours d'investiture, vraiment, c'est un discours éloquent, avec des promesses encore. Est-ce que cette fois-ci, nous n'allons pas encore nous retrouver dans la même situation qu'avant? Trop de promesses, mais peu de réalisations.
Oui.
Et c'est là que je prie et je souhaite que le président de la République soit très regardant, qu'il fasse montre d'un grand leadership agissant, en donnant l'impulsion et en faisant de sorte qu'il soit animé vraiment par des collaborateurs qui vont s'imprégner de sa vision et qui auront cette volonté de redorer l'image du président de la République, parce que il y a après lui, je sais que les partis politiques voudraient bien se pérenniser au pouvoir, même s'il y a alternance, mais qu'il y ait l'alternance le scénario de 2018 pourrait réellement encore se vérifier en 2028, toutes choses restant égales par ailleurs.
Et donc, il ne faut pas se frotter les mains rapidement parce que il ne suffit pas seulement d'avoir la forte majorité au sein des institutions nationales et provinciales pour espérer être en mesure d'impulser une nouvelle gouvernance.
Oui, en tout cas, ça, je continue à soutenir cela parce que il faut aussi qu'il y ait cette volonté-là. Et pour moi, j'insiste encore. Vous savez, le système politique congolais tel qu'il est constitué, il renferme aussi les germes de son inefficacité. Pourquoi ? Parce que il y a des députés, bien entendu, qui ont été élus, mais parfois ils ont utilisé des moyens de parti. Alors, ce sont ces mêmes députés-là qui ont été élus, qui constituent la majorité, et qui vont former le gouvernement. Et le gouvernement sera issu des partis politiques qui ont financé les députés. Alors, l'obligation de la gratitude aidant, comment se fait-il que les députés, comment expliquer que les députés puissent assurer le contrôle efficace de la gestion des entités provinciales par les ministres et même les gouverneurs, Alors, il y aura toujours cette obligation-là de redevabilité, de gratitude, qui fera qu'à un moment donné, les députés risquent de commencer à amadouer les membres du gouvernement provincial. Et là, rien à faire, on aura des problèmes pour réellement satisfaire les besoins et résoudre les problèmes de la population qui a mis beaucoup de confiance dans le président de la République parce que c'est l'unique autorité qui a été élu par l'ensemble des citoyens congolais et les différents gouverneurs à tous les niveaux constituent ici les bras du président de la République.
Merci.
Ils doivent travailler dans le sens que le programme du président de la République, les objectifs qu'il s'est fixé là-bas, puissent arriver réellement à être réalisés.
Merci,
mais
professeur.
Un autre problème aussi, les projets du président de la République est très ambitieux et ça nécessite suffisamment de moyens financiers et
voilà.
Qu'il faudrait mobiliser.
J'espère
que tous ces gens ici vont intérioriser cela. Mais quand on sait que l'exercice du pouvoir politique n'est pas un service à rendre à la nation, mais c'est une occasion d'accès aux prébendes qu'offre cet exercice du pouvoir et sans vraiment une justice agissante, je pense que nous risquons de tourner autour du pot.
Merci, professeur.
Et cette fois-ci, nous pensons que le président de la République va ouvrir l'œil et le grand pour que ses objectifs soient atteints.
Merci, Augustin Mouessi. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous écoute.
Oui, bonsoir, on n'a pas eu le temps, l'occasion de se saluer.
Oui, bonsoir.
Oui, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Goma, Inigoma, sigle, chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Et pour vous également, ces résultats étaient-ils prévisibles?
Bon, on ne peut pas dire que c'était prévisible non plus, puisque, comme vous le savez, ce sont des résultats qui ressortent d'une compétition électorale qui était fortement disputée, où il y avait une compétition de tous les enjeux, où chaque candidat essayait de vendre son programme. Mais comme ils sont déjà là, et on peut essayer de les comparer aux résultats qu'a obtenu la majorité au niveau de la présidentielle, mais aussi au niveau d'autres scrutins aussi. Et là, on peut dire effectivement que il y a comme une cohérence entre ces résultats et que ces résultats, par rapport aux provinces, suscitent un certain nombre d'espoir. Espoir à quel niveau, puisque, comme vous le savez, les provinces ont connu des crises persistantes, mais aussi des dysfonctionnements liés à plusieurs facteurs, au comportement des différents acteurs au niveau provincial, mais aussi les manipulations de certains animateurs du gouvernement central. Donc il y a eu une immixtion généralisée dans le fonctionnement des provinces, mettant à difficulté la libre administration des provinces qui est consacrée par une loi et qui devrait permettre à ce que les provinces réalisent des projets de développement, d'amélioration de la qualité de la gouvernance au regard justement des objectifs assignés à la régionalisation comme mode de gestion. Et donc, espoir, puisque s'il y a eu effectivement l'instabilité des provinces, c'est parce qu'il y avait parfois des contradictions, il n'y avait pas une vision commune entre les autorités de Kinshasa et parfois les gouverneurs de province qui étaient des familles différentes. Donc c'est aussi parfois ce qu'on a constaté. Mais alors, même si évidemment il y a ces espoirs, il y a des questionnements importants, il y a des questions qu'il faut se poser. Le fait que l'Union sacrée soit largement victorieuse, est-ce que cela va mettre fin, n'est-ce pas, au clivage? Parce que on a constaté même en 2006 que parfois les autorités ou les membres de la mouvance présidentielle, de la majorité au pouvoir, ne parlaient pas le même langage à ce qui concerne le candidat. À telle enseigne qu'il y avait beaucoup de candidats qui s'étaient présentés en indépendant et qui chamboulaient pratiquement, qui modifiaient en fait qui modifie en fait la volonté de l'autorité morale ou des autorités morales, et cela déjà était à la base des conflits au niveau des acteurs qui devaient animer les élections provinciales. Mais également, on peut aussi interroger les rapports entre les gouvernements centraux et les provinces. Une chose, c'est que il est possible que la majorité n'est-ce pas puisse avoir nombreux gouverneurs compte tenu de la configuration des résultats. Mais est-ce que cela va s'accompagner d'une véritable volonté délibérée les pouvoirs, les compétences qui sont exclusives aux provinces, puisque depuis 2006, lorsqu'on regarde la régionalisation qui est en train de se, qui s'est mise en place, on a l'impression que le pouvoir de Kinshasa n'a jamais voulu laisser les provinces s'administrer de manière autonome. Et aussi, à part justement cette tendance centralisatrice, il y a aussi la disparité en termes des moyens, des ressources dont disposent les provinces. Une chose, c'est d'avoir un gouverneur peut-être accepté qui a l'appui des députés provinciaux et même du gouvernement de Kinshasa, mais une autre aussi, c'est de faire réellement fonctionner un certain nombre de mécanismes prévus par la Constitution, notamment la Caisse nationale de péréquation, mais aussi essayer de faire en sorte que réellement les provinces qui sont plus démunies que d'autres soient aussi dotées des moyens susceptibles de leur permettre de se développer. Lorsqu'on regarde les rétrocessions telles qu'elles sont opérées, il n'y a que le gouvernement de Kinshasa qui sait sur base de quoi les rétrocessions ont toujours été faites. Encore faudra-t-il dire que ces rétrocessions ont été souvent irrégulières et ne permettent pas véritablement aux provinces d'entreprendre le développement, surtout que ou de résoudre, d'améliorer les conditions de vie des populations, surtout que on avait l'impression que le gouverneur était justement, il y avait il y avait une épée de Damoclès qui était suspendue sur leur tête. Il y avait toujours l'émotion alimentaire qui était initiée par des députés provinciaux et qui ne permettait pas justement au gouverneur de province aussi de pouvoir impulser réellement le développement de leur province. Et donc voilà une série de questionnements qu'on peut formulée à l'égard de cette nouvelle configuration qui semble se mettre en place. Et donc, après, on dit, c'est bien que, effectivement, cette fois-ci, peut-être, on puisse créer, les résultats puissent créer les nouvelles conditions de stabilité institutionnelle des provinces, mais, et cela pourrait ne pas suffire au regard, justement, de certaines pratiques auxquelles on a habitué, parce que on a été habitué, puisque à part justement ces pratiques des députés provinciaux, il y avait également aussi la corruption, la prédation. On a vu comment certains gouverneurs ont payé des vieux tracteurs, se sont rendus, se sont caractérisés par la prédation des ressources provinciales. Et tout cela n'était pas de nature à permettre à ce que les provinces, justement, atteignent certains objectifs au regard, justement, de la clé de répartition des compétences.
Oui.
Et donc, une chose, c'est de pouvoir permettre à ce que les provinces soient contrôlées par la majorité, mais une autre chose, c'est de voir réellement les conditions être créées et par le pouvoir central et par les nouveaux animateurs qui seront mis en place, pour effectivement voir la régionalisation être catalysée, en fait, une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle gouvernance provinciale pour l'intérêt des populations qui attendent beaucoup de ces provinces.
Oui, professeur, une autre réalité par rapport à cette nouvelle configuration, n'est-ce pas, des institutions provinciales avec ces résultats issus de ces élections provinciales. Et c'est que sur plus de 688 députés provinciaux déclarés élus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'opposition a moins de 40 élus. Qu'est-ce que cette réalité vous inspire, professeur Mouessi?
Oui, lorsque on peut se référer aux critères des parlements démocratiques ou même d'une assemblée qui se dit démocratique, c'est que parmi les critères pour qu'on dise qu'un parlement est démocratique, c'est aussi la possibilité, la représentativité en fait. Le fait qu'il y ait plusieurs forces politiques, sociales qui soient représentées dans cette assemblée ou ce parlement. Et pour le cas d'espèce, il s'agit des assemblées en fait provinciales. Et en plus de cela, il y a également la transparence et la possibilité pour, n'est-ce pas, l'assemblée provinciale de pouvoir être ouverte. Ce qui fait que, avec ces résultats, il est fort possible qu'on assiste évidemment à la dictature de la majorité, ce qui est tout à fait normal pour la démocratie. Mais faudra-t-il encore que, même si l'opposition pourra être minoritaire dans ces assemblées provinciales, que les gouvernants au niveau de ces différentes provinces ou de ces assemblées provinciales puissent aussi également comprendre qu'il faut quand même associer aussi donner la parole à quelques membres d'opposition qui seront minoritaires, mais aussi à d'autres structures de la société civile, pouvoir les associer en ce qui concerne l'élaboration de certains édits, pour que effectivement il y ait quand même des sons, des cloches en fait divergents qui pourront effectivement pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance provinciale.
Merci professeur. On a compris, merci. Nous allons maintenant prendre les points de vue des auditeurs. Hein. Professeur Moïla Chiembe, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu, Augustin Tedilongue.
Augustin Tedilongue, je suis à Bukavu, de la province de Sud Kivu. Ce n'est pas une surprise à mon avis, car tout est détaillé sur mesure de l'IDPS pour s'accaparer de tous les postes stratégiques dans le gouvernement national, ainsi qu'avoir des gouverneurs proches dans les provinces de son choix. Quand cela ne tienne, les Congolais attendent évaluer après 5 ans de temps, puisque cette fois-ci, fatigue le temps, n'est pas bousculé par aucune force politique.
Professeur Moïla Chiembe.
Ben écoutez, si j'ai bien compris le propos de notre compatriote, le fait que cette majorité soit, comment dirais-je, godillot, si on utilise le terme un peu, comment dirais-je, qui n'est pas propre à nos États, c'est-à-dire incomptable, parce que il y a plusieurs personnes, chaque parti de la majorité a une bonne part du gâteau au regard des résultats qui sont là. Je pense que ce que nous disions tout à l'heure les uns et les autres, la chose la plus importante, c'est la lucidité du président de la République et la pertinence de son projet. disent que c'est lui d'abord qui a battu campagne et de la manière la plus, comment dirais-je, vigoureuse, avec sa stratégie d'union nationale. Pour la première fois, nos théories qui consistent, que vous connaissez probablement, nous avons toujours soutenu que dans un État de plusieurs peuples, de plusieurs langues, de plusieurs religions, si on veut avoir une victoire nette, il faut mobiliser les leaders de chaque ou de tous les peuples ou des peuples représentatifs autour d'un projet global. Et si on a le soutien des hommes et des femmes dans leur propre terroir qui viennent apporter un soutien à quelqu'un, l'union fait la force, on y est déjà. Si le président de la République a gagné haut la main, contrairement aux critiques de ce qui n'a pas marché ici, qui est d'ailleurs réel, c'est cette stratégie globale. Pour la première fois depuis 60, c'est la première fois qu'il y a une unité avant les élections. Et chaque leader, dans sa tribu, dans sa province, dans sa ville, a battu campagne pour dire « Élisez un tel, nous sommes derrière lui ». Alors, si cette unité se traduisait dans le comportement rationnel, et c'est la raison pour laquelle je pense que la responsabilité première revient au président de la République. Un exemple. Il y a des personnalités importantes, M. Kamere, M. Bahati, M. Bemba, encore M. Mbosso, pour ne citer que le quarto qui est autour du président et qui a permis d'ailleurs la mise en œuvre de l'Union sacrée. Si chacun d'eux doit donner 2 ou 3 personnes à tel ou tel poste, le président doit exiger que si c'est le parti de M. Bahati qui donne, ou de M. Kamere, ou de M. Bemba, ou éventuellement de M. Mbosso, il faut donner la candidature d'une personne compétente, dévouée, reconnue par sa moralité publique. Parce qu'on connaît quasiment, sauf des jeunes aujourd'hui diplômés, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais pour les postes les plus importants, même s'il s'agit des jeunes, il faut apporter la preuve de ce qu'on connaît, de ce qu'on est capable de faire. Là, si, par exemple, il était demandé à M. Kamere de donner 2 ou 3 candidats, je ne sais pas, à tel ou tel poste, s'il propose au président de la République des gens incompétents par clientélisme, le président a le devoir sacré de refuser et de nommer des gens compétents, soit dans le parti de M. Kamere ou de M. Bahati ou de M. Bemba, indépendamment de la volonté qu'il estime que son allié lui a proposé des gens incompétents. Et un autre problème sous-jacent à la question discutée par notre dernier collègue, c'est quoi? Est-ce qu'il faut un gouvernement de l'Union nationale? On a entendu l'Église et d'autres gens dire oui, voilà, il faut... Non, moi je pense que la pertinence, l'opposition, chaque pays a besoin d'une opposition. Qu'il soit laminé avec une représentativité qui n'était pas attendue, c'est une chose, on peut comprendre. Mais l'opposition doit faire son job de s'opposer au gouvernement, juréné naturellement dans les conditions de l'égalité républicaine. Merci. Conformément aux lois. Il ne faut pas confondre. L'opposition doit s'opposer, mais l'UDPS, l'exemple de l'UDPS est là. Combien d'années l'UDPS est resté dans l'opposition? Aujourd'hui, nombre de gens qui n'ont pas suivi, pour les plus jeunes d'entre nous, on croirait que l'UDPS sort, de buisson ou de quelque chose, ou de quelque part que l'on connaît. Mais c'est un parti qui a milité, qui a vu ses militants souffrir. Beaucoup sont morts, soit des maladies ou d'autres en prison. Et le pouvoir leur est passé sous le nez. Avec leur stratégie de ne pas aller aux élections et d'aller vers l'opposition radicale, on connaît la suite. Je souhaite, et je pense que c'est le souhait de beaucoup de nos compatriotes, que ceux qui ont reçu la majorité du peuple gouvernent, pour qu'ils soient jugés à la fin, qu'on ne vienne pas nous dire « oui, vous voyez, c'est FCC-Cash qui s'est reproduit ». Non, ceux qui ont eu la majorité doivent avoir le courage de gouverner. Ceux qui n'ont pas eu la majorité, le peuple les a placés dans l'opposition, ils doivent continuer à s'opposer.
Merci.
Dans 5 ans, on repartira encore à zéro.
Merci. Donc l'opposition doit rester dans son rôle d'opposant, en fait, dans son rôle, n'est-ce pas, qui consiste à critiquer l'action du gouvernement. Merci, professeur.
Absolument.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. Vous allez aussi réagir à la proposition de l'auditeur qui nous appelle depuis la province de la Tchopo.
Moi, c'est Ignacio Fumba de Bundu dans la province de la Tchopo. La lecture est non surprenante car on savait bien que ce qui s'est passé à la législative nationale pourrait aussi se passer à la législative provinciale. Les causes ont produit les mêmes effets, dit-on.
Oui, professeur, apparemment, il vous a rejoint dans votre analyse. Hein?
Bon, ok, merci beaucoup. C'est vrai, il m'a rejoint. Bon, en effet, la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui, la configuration actuelle, est aussi une illustration éloquente de la maturité aussi du peuple congolais. En effet, nous avons tiré les leçons de l'histoire. Il est évident que le président de la République, dans son premier quinquennat, il n'avait pas la majorité au Parlement, il n'avait pas la majorité dans les assemblées, et avant la création de l'Union sacrée, il a eu des problèmes très sérieux pour faire asseoir sa politique. Et la preuve en est que les actes du président de la République ne peuvent pas être soumis à une quelconque critique au niveau du Parlement. Mais nous avons vu toute une journée, toute une plénière autour des actes du président de la République, tout simplement parce qu'il n'avait pas la majorité. Alors, je pense que le même peuple ayant renouvelé la confiance au président de la République a tiré les leçons de l'histoire pour dire maintenant nous le mettons à l'épreuve.
Oui, professeur, un autre aspect par rapport à ces élections, c'est les défis qui doivent être relevés par les différentes institutions provinciales. Hein. Vous avez suivi le professeur Mouessi qui a évoqué les rapports entre les gouvernements centrales et les gouvernements provinciaux. Hein. Et on a l'impression que les gouvernements provinciaux sont toujours, n'est-ce pas, inféodés au gouvernement central, en dépit du fait que nous avons une loi sur la libre administration des provinces.
Vous avez totalement raison. La difficulté que rencontrent les gouverneurs, c'est cette double responsabilité qu'ils ont. Le gouverneur élu par l'Assemblée provinciale, donc chef du gouvernement provincial, et dans l'entretemps, il est le président et le représentant du président au niveau provincial. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il est élu, mais il ne peut être investi que par ordonnance. Donc, il a une double responsabilité. Qui plus est, le professeur a très bien dit, et c'est vrai, il y a la libre administration. Quand nous lisons la loi sur la libre administration des provinces et des et même la constitution congolaise, on parle bien de la retenue à la source des 40% des recettes à caractère national. Et à l'heure qu'il est, il n'y a aucune province qui a la latitude de retenir les 40% à la source. Mais on parle d'un concept politique créé, notamment la rétrocession. Et même dans la matière de rétrocession, il n'y a aucune province, à mon avis, qui a déjà reçu la rétrocession de 40%. C'est autour de 13, 7%, 12, 19 ou 23%. Alors, cette situation fera que même si vraiment on ne veut pas on ne prend pas la décision de respecter scrupuleusement les textes, en tout cas, nous allons revivre la même situation. Donc, il est souhaitable que l'on respecte les textes. Alors, si réellement il est impossible de passer à la retenue à la source de 40%. On peut alors procéder à la modification de cet article. Au lieu de 40%, on dit qu'on va retenir
professeur.
On sait aussi en plus que la caisse de péréquation fonctionne normalement.
Merci.
Parce que
on a compris.
Toutes les provinces n'ont pas les mêmes
moyens. Voilà, de produire les ressources, oui. On a compris, professeur. Et professeur, moi aussi, il y a aussi Maître Abner Kivero qui nous écrit depuis Kirumba dans les Lubéros, c'est au Nord Kivu. Il dit, si l'UDPS, parti présidentiel, arrache la part des lions dans ces élections au niveau national et provincial, est un peu comme le PPRD à l'époque, suivi de l'AFDCA, est-ce que ces résultats ne confirment n'est-il pas la thèse selon laquelle les résultats des élections dépendent des moyens financiers mis à la disposition des candidats et non des compétences et des valeurs? Professeur Mouessi.
Oui, en matière d'élections, les élections constituent toujours des actions, résultent d'actions inconscientes, incohérentes et même fantaisistes. C'est vrai, il y a beaucoup de politologues qui ont déjà montré le poids justement de l'argent. L'argent pour dans la campagne électorale, ça coûte. Hein, l'argent joue un grand rôle. Comme disait le général, je voudrais bien gagner la guerre pourvu qu'on me fasse trois choses, l'argent. Mais au-delà de l'argent aussi, il y a d'autres pesanteurs, d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et d'aucuns ne cessent d'évoquer justement cette communication à deux étages qui a consisté à pouvoir utiliser les leaders locaux pour effectivement essayer de vendre les candidats de la majorité. Mais et tout ça, je crois, sont des facteurs qui peuvent avoir compté. Donc on ne pourrait pas tout expliquer par l'argent. Il y a certainement d'autres facteurs, même les discours des campagnes aussi, parce que comme vous le savez, ici à l'Est, par exemple, les gens voulaient un peu attendre des discours qui iraient dans le sens de vouloir mettre fin à la guerre. Et je crois qu'il y a eu même des aspects identitaires qui sont intervenus. Donc, je suis d'accord que effectivement l'argent peut avoir joué, mais il y avait aussi d'autres candidats qui avaient l'argent mais qui ne sont pas passés.
Merci.
Voilà le paradoxe.
Oui, merci.
C'est pour autant dire que on ne peut pas tout expliquer par l'argent, même si c'est... Ça reste un moyen très important, évidemment, en matière de campagne électorale.
Merci, professeur. Nous sommes presque à la fin de l'émission. On va conclure. Et professeur Moïla Chiembe, vous êtes professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Quel pourrait être l'impact de cette nouvelle configuration politique provinciale sur la gestion du pays?
On ne peut pas présumer. Nous voyons une majorité écrasante. Le président de la République a les moyens que le peuple vient de lui donner pour gouverner. L'impact ne sera mesuré. C'est au pied du mur que l'on voit le maçon. La majorité arithmétique est là. Comment le président va-t-il utiliser cette majorité que le pays lui a donnée? On connaît les points essentiels de ce qu'il avait déjà indiqué. Et s'il peut s'investir réellement et veiller à ce que, au fond, l'un des problèmes qui se trouve là sur la porte du président de la République ou sur sa table, c'est l'esprit des lois. Tout à l'heure, on a parlé de la décentralisation, mais le texte de la décentralisation, dis-moi, combien de politiciens congolais ont lu la Constitution, savent ce que c'est que la décentralisation telle qu'elle est dans le texte constitutionnel de 2006. Très peu de gens, même les universitaires, des collègues professeurs, très peu de gens savent quel est l'esprit du constituant, comment le pouvoir constituant a restructuré ce pays. Si je vous dis que le constituant congolais a divisé le pays en trois blocs, le bloc de l'État, le bloc des provinces, le problème des entités territoriales décentralisées. Et à chaque bloc, il y a la personnalité juridique, la libre administration, l'autonomie de gestion, comme à la fois les normes, mais les moyens juridiques du gouvernement. On ne va plus discuter. La Constitution dit donner 60% des recettes à l'État, donner 40% à la province automatiquement. Est-ce que cette loi a été, cette disposition constitutionnelle a-t-elle été respectée? Où est l'autonomie de gestion? D'ailleurs, depuis que le pays a adopté cette constitution en 2006,
Est-ce qu'il y a eu déjà des élections globales, notamment les élections locales municipales? C'est la première fois. Alors, comme on n'a pas l'expérience du fonctionnement du pays, parce qu'on n'avait que ces élections alambiquées, on a élu le président, on a l'Assemblée nationale et le Sénat, on a un peu une sorte de saupoudrage avec les gouverneurs dans les conditions que l'on sait. Maintenant, on a des élus à tous les niveaux. Là même où la décentralisation doit avoir lieu, on aura des élus. On peut espérer qu'avec des élus, avec la détermination d'abord du président de la République, qui ne peut pas se laisser émousser par cette majorité impossible, il faut la domestiquer au nom de l'intérêt supérieur de la nation.
Merci.
Par non seulement sa volonté de faire les choses,
merci, professeur,
mais d'aller vers l'efficacité, la recherche de l'efficacité pour les biens publics.
Merci, professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette nouvelle configuration politique provinciale puisse réellement impulser une nouvelle gouvernance?
Bien, merci. Je pense que dans un premier temps, on doit respecter les lois. Les lois du pays doivent être respectées. Si on ne sait pas les respecter, alors qu'on les modifie. Mais tant qu'on ne les a pas encore modifiées, que les lois soient respectées. Il est aussi souhaitable que, c'est vrai, au regard de la configuration actuelle des assemblées provinciales, l'opposition est vraiment minoritaire. Alors, je demanderais que la majorité ne puisse pas utiliser sa position prééminente pour étouffer considérablement l'opposition et lui enlever tous les moyens de son expression. Il est souhaitable que l'on tienne compte aussi du point de vue de l'opposition qui doit exister parce que la démocratie implique que l'opposition existe. Donc, que cette opposition formule librement ses critiques et la majorité en tienne constamment compte. C'est à ce moment-là qu'on comprendra réellement que l'opposition et les républicaines, au travers de ces critiques, parce qu'elle a aussi une autre vision et elle pourra aider la majorité au pouvoir à améliorer la gestion des affaires publiques à tous les niveaux, du niveau national, du niveau provincial et du niveau des CDD.
Merci. Augustin Mouassi, professeur des sciences politiques à l'université de Goma Inigom, chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Et on peut espérer, on peut espérer à quoi avec cette nouvelle configuration politique au niveau provincial?
On peut espérer premièrement à la stabilité des institutions provinciales, si et seulement si on désigne des hommes compétents aussi, et si et seulement s'il y a la volonté du pouvoir central à pouvoir laisser les provinces se gouverner en fonction de la loi, mais si et seulement si on respecte la clé de répartition des compétences telle que c'est prévu dans la Constitution, parce qu'on vous le savez, il y a des compétences exclusives à l'État central, des compétences exclusives aux provinces, mais aussi des compétences partagées. Mais tout cela va dépendre vraiment de la qualité d'homme et de la volonté qui sera affichée pour pouvoir laisser les provinces fonctionner normalement, puisque, comme vous le savez, dans l'expérience passée, a montré que pour nombreux élus, les provinces, les élections provinciales étaient des vaches à lait, des députés et même d'autres acteurs. Mais c'était aussi des vaches à lait pour certains responsables au niveau du gouvernement central. Et tout cela n'était pas de nature à favoriser le développement de provinces, parce qu'à chaque fois, il fallait piéger soit les gouverneurs de province, instrumentaliser des députés, ce qui n'a fait que contribuer à l'instabilité chronique des provinces avec des immixtions récurrentes du pouvoir central, et ça fragilisait pratiquement ce qui était visé par la régionalisation comme puisqu'elle était en fait entreprise, en vue de permettre aux provinces de pouvoir se prendre à charge et impulser le développement au niveau provincial et améliorer la qualité de la gouvernance provinciale.
Merci, chers éminents, professeur Moïla Chiembe, professeur Jeff Mudimbi, Augustin Mouessi, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Kelly Koute qui l'a réalisé et à Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fouanani, Clément Chimanga et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi.